Accent d'Europe, Catherine Roland.
Une nuit d'horreur à Nice, dans le sud de la France.
Todos miramos a Francia, golpeado de nuevo por lo que apunta a un nuevo ataque terrorista.
The French president François Hollande has addressed the nation, deploring what he called a terrorist attack in Nice.
Nach dem Anschlag in der südfranzösischen Stadt ist die Zahl der Toten auf mindestens 84 gestiegen, darunter sind auch Kinder.
Итак, главная тема сегодня – массовый теракт в Ницце. Чудовищная атака на набережной на празднование дня взятия Бастилии унесла жизни 84 человек.
Bonjour à tous. Une terrible impression de déjà-vu. Les médias internationaux, télé, radio commentent avec le même effroi qu'en novembre dernier l'attentat de Nice. La presse n'est pas en reste. Les victimes du camion de l'enfer, titre The Sun. La France rentre à nouveau en deuil. Annonce de ce côté Le Guardian. La terreur revient en France le jour de la fête nationale, écrit le journal espagnol ABC. Et l'italien Il Giornale qui écrit « C'est un autre Bataclan ». Ou enfin le tabloïd Bild qui parle des enfants victimes. Les victimes, effectivement, qui se comptent en dizaines, 85, peut-être 90. Beaucoup de familles avec leurs enfants. Des touristes étaient venus assister hier soir au feu d'artifice sur la célèbre promenade des Anglais quand un camion a foncé sur les promeneurs pendant 2 kilomètres avant que le chauffeur ne soit abattu. Et parmi les victimes, au moins une étudiante russe. Alors, Assel Kipchakova, les médias russes font tous leur une sur l'attaque d'hier soir.
Et voilà quelques exemples de titres chocs. Toute la France est sous la menace islamiste, pour le journal Commerçante. De son côté, le journal Komsomolskaya Pravda souligne la leçon que tout le monde doit tirer de cet attentat. Il faut créer un Interpol mondial, des forces spéciales, dit un expert militaire. Mais le journal Moskovsky Komsomolets va plus loin. Pour lui, cette menace islamiste doit entraîner un rapprochement de l'Europe avec la Russie, afin de créer un front commun contre le terrorisme. Enfin, Catherine, on peut noter sans surprise la critique de la chaîne pro-gouvernementale Russia 24. Un officiel de la défense reproche aux gouvernements occidentaux d'être trop indulgents et d'avoir fermé les yeux sur le financement de ces cellules terroristes.
Alors, Assel, si les journaux et médias commentent si largement l'attentat du 14 juillet à Nice, c'est qu'il y a une première raison.
Oui, Catherine, la communauté russe serait très importante à Nice. Près de 10 000 Russes sont enregistrés dans l'élégante ville de la Côte d'Azur et ses environs, selon les statistiques officielles. Mais en réalité, il serait 4 fois plus. Ce sont des gens aisés, installés depuis plusieurs années sur la côte, ravivant ainsi une vieille tradition de l'époque du tsar. La communauté s'est d'ailleurs très bien intégrée dans le paysage multiculturel de la Côte d'Azur. Ce sont souvent des cadres supérieurs qui travaillent pour des sociétés internationales basées en Russie, mais qui ont choisi de travailler et de vivre entre les deux pays.
Autre raison à celle, la Russie, elle aussi a connu le terrorisme encore tout récemment, c'était en octobre.
Oui, la Russie a été touchée, c'est encore frais dans les mémoires. En octobre 2015, ce sont les touristes qui ont été frappés quand le vol A321 s'est écrasé dans le Sinaï, attentat revendiqué par Daesh. Mais déjà dans les années 2000, la Russie a connu de nombreuses attaques sur son territoire. Et rappelez-vous, dès son premier mandat, Vladimir Poutine avait déclaré la guerre au terrorisme en prononçant cette fameuse phrase « Il faut les buter jusque dans les chiottes ». Une déclaration qui reste d'actualité puisque depuis un an, la présence russe a été renforcée en Syrie. Le président russe a ordonné à l'armée de répondre à toute menace avec une extrême fermeté. N'oublions pas enfin, Catherine, que les auteurs de l'attentat de l'aéroport international d'Istanbul étaient originaires du Caucase, région clairement identifiée par Poutine comme source de menaces.
Assel nous le disait à l'instant, 3 des terroristes qui ont frappé il y a 15 jours l'aéroport international d'Istanbul venaient donc du Caucase. La Turquie est l'un des pays particulièrement visés par le terrorisme. Et la menace a eu raison des célébrations du 14 juillet qui rassemblent traditionnellement la communauté française et francophone. Toutes les représentations diplomatiques en Turquie ont fermé leurs portes dès mercredi et n'ont pas rouvert depuis. Anne Andlauer nous appelle d'Istanbul.
Chaque année, l'ambassade de France à Ankara, le consulat général à Istanbul et le consulat honoraire à Izmir invitent la communauté française et francophone à célébrer la fête nationale. Mais ce 13 juillet, moins de 10 heures avant la fête à Istanbul, qui devait avoir lieu dans les jardins du Palais de France, tout le programme a été annulé, de même que les réceptions à Ankara-Izmir prévues le lendemain. Sur place, les autorités diplomatiques françaises ont avancé, je cite, « des informations concordantes qui font état d'une menace sérieuse contre l'organisation de la fête nationale du 14 juillet en Turquie ». L'ambassade et le consulat ont refusé d'en dire davantage sur la nature des menaces, faisant simplement état, je cite, « d'informations nouvelles justifiant ces annulations à la dernière minute ». Les autorités turques, elles, ont indiqué que cette décision était celle de la France, basée sur des renseignements français. Toutefois, le vice-premier ministre turc a désigné ouvertement la menace posée par Daesh aux intérêts français situés partout dans le monde. Autre mesure exceptionnelle, l'ambassade de France à Ankara, le consulat à Istanbul et l'antenne d'Izmir sont toujours fermées depuis mercredi, et ce jusqu'à nouvel ordre. Des barrières de sécurité ont été installées devant ces missions diplomatiques et l'on a vu à Istanbul des hommes des forces spéciales de la police turque patrouiller lourdement armés devant le consulat. En fait, ces derniers mois, ce sont toutes les missions diplomatiques étrangères en Turquie qui sont sur le qui-vive. Les deux plus grandes villes turques, Istanbul et Ankara, ont subi pas moins de 6 attentats suicides en 6 mois. Presque toutes les attaques à Istanbul ont été attribuées au groupe État islamique, y compris celle du 28 juin contre l'aéroport Atatürk qui a tué 45 personnes. On se souvient aussi qu'en mars, l'Allemagne avait déjà fermé son ambassade à Ankara, son consulat à Istanbul et ses écoles dans les deux villes, citant des alertes très sérieuses. Elle avait été imitée par les Pays-Bas pour les mêmes raisons. En Turquie, toutes les capitales européennes recommandent à leurs ressortissants de se montrer discrets dans les zones touristiques et d'éviter les lieux d'affluence.
La nervosité est également très grande en Belgique, touchée il y a presque 4 mois, le 22 mars, par les attaques dans l'aéroport et le métro bruxellois. Une nervosité d'autant plus grande que la fête nationale, c'est le 21 juillet, dans moins d'une semaine. Alors tout à l'heure, le Premier ministre belge, Charles Michel, a adressé ses pensées aux victimes de cet acte odieux. Mais a priori, les festivités vont demeurer sur place. Alors quelles mesures de sécurité ont été prises depuis le 22 mars et seront-elles renforcées à Bruxelles? Laxmilota.
Les événements du 21 juillet sont maintenus, affirme Charles Michel, le Premier ministre, mais des mesures complémentaires de sécurité seront prises. Le 21 juillet, c'est la fête nationale belge. Un défilé militaire est prévu dans l'après-midi, de même qu'un feu d'artifice le soir à 23h. Le 21 juillet ne sera pas annulé, a également dit le ministre belge de l'Intérieur, Yann Yambon, qui ajoute « Nous n'allons pas adapter nos façons de vivre à l'agenda des terroristes ». Pour l'instant, l'OCAM, l'organe qui évalue les menaces terroristes en Belgique, a maintenu le niveau d'alerte à 3 sur 4, c'est-à-dire une menace sérieuse mais non imminente. Un niveau 4 signifie un risque concret, précis et ciblé. Ce n'est pas le cas dans les jours à venir sur le sol belge, indique le Premier ministre. Dans les rues de Bruxelles depuis le 22 mars dernier, jour des attentats meurtriers dans la capitale belge, on peut voir des militaires, ils surveillent les bâtiments stratégiques comme la Commission européenne, circulent aussi par 2 ou 3 dans les stations de métro de la ville. Le bourgmestre de la capitale avait dû annuler le feu d'artifice de fin d'année et une marche en hommage aux victimes des attentats pour des raisons de sécurité. La Belgique a appris à vivre avec ce nouveau contexte. Pendant l'Euro de football, la fan zone de la place Rogier a été fermée pendant 2 jours en raison de menaces d'attentats. Le centre commercial City 2 a été évacué le mois dernier en raison d'une alerte à la bombe due à un déséquilibré qui portait en réalité une ceinture remplie de sel et de biscuits. Des détecteurs de métaux ont été installés à l'entrée des festivals de musique en plein air. Il faut prendre en compte tous les modus operandi des terroristes, a rappelé le Premier ministre ce matin.
Et après cette page spéciale, on retrouve une information certes grave mais moins tragique. 3,5 millions d'habitants, c'est le dernier résultat du recensement en Bosnie-Herzégovine, le premier depuis l'indépendance. Mais dans un pays qui reste profondément divisé, ces résultats exacerbent les tensions entre les communautés serbes et bosniaques. Simon Rico.
Les Bosniens attendaient depuis longtemps de savoir combien ils étaient à vivre dans le petit pays dévasté par la sanglante guerre du début des années 90. Le dernier recensement datait de 1991, quand la Yougoslavie existait encore. Prévu pour 2011 comme dans le reste des Balkans occidentaux, la tenue du recensement soutenu par l'Union européenne avait été retardée de 2 ans à cause des tensions entre bosniaques, serbes et croates. Chaque communauté craignait de voir son importance diminuer et de perdre de son influence. Il aura encore fallu patienter 3 ans pour avoir les résultats définitifs. Malgré le veto de l'entité serbe, les chiffres ont finalement été publiés le 30 juin, la date limite avant qu'ils ne soient invalidés. Il faut dire que ce recensement montre le renforcement des Bosniaques, qui représentent désormais plus de la moitié de la population totale, au détriment des Serbes et des Croates. Surtout, le recensement révèle que le nettoyage ethnique opéré pendant la guerre a malheureusement bien fonctionné. Aujourd'hui, à peine 6 communes sur 143 n'ont pas de communauté majoritaire. La capitale Sarajevo est ainsi peuplée à plus de 80% par des Bosniaques, alors qu'ils n'étaient que 50% en 1991. Moins de 3% des Bosniens ne se sont pas déclarés comme Bosniaques, Serbes ou Croates, les trois peuples reconnus par la Constitution. En réponse, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les pressions nationalistes qui ont pesé sur le recensement pour se déclarer comme il fallait. Autre motif d'inquiétude pour la Bosnie-Herzégovine, en 25 ans, le pays a perdu 850 000 habitants à cause de l'exode massif, soit 20% de sa population. Une donnée très inquiétante pour l'économie, alors que le chômage touche déjà la moitié de la population active.
C'était une question juridique, elle est devenue politique. Le traité de libre-échange de l'Union européenne avec le Canada, le CETA, sera finalement soumis au vote des 27 parlements nationaux. La Commission européenne a cédé aux pressions de Paris, Berlin et de Vienne. En Autriche, la contestation est particulièrement virulente. Le CETA est suspecté d'être le cheval de Troie du TAFTA, l'autre traité devant unir l'Union européenne aux États-Unis. Les Autrichiens, comme nombre d'autres Européens, craignent en fait la remise en cause de leurs standards agroalimentaires ou encore de leur secteur public. Reportage Céline Béal.
Manifestation devant la chancellerie autrichienne. Nous sommes fin mai, le nouvel occupant des lieux est accueilli au Conseil des ministres par des détracteurs des traités de libre-échange nord-américains CETA et TAFTA. La contestation dure depuis des mois et elle n'est pas près de se terminer. Les militants dénoncent en particulier une clause. Pour protéger leurs investissements, les entreprises seraient autorisées à porter plainte contre des États. Des décisions prises démocratiquement pourraient ainsi être attaquées par des multinationales américaines. Selon Alexandra Strickner, économiste à la tête de la plateforme Stop TAFTA, tous les Européens devraient se sentir concernés.
Les effets seront plus ou moins les mêmes pour tous les Européens, même si on a aussi des différences, évidemment, à partir de la question comment est organisée l'économie d'un pays. Mais généralement, l'attaque à la démocratie, à la possibilité de porter plainte, l'attaque aux services publics, voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose partout.
Pourquoi la petite République alpine est-elle alors davantage remontée que les autres ? Pour l'économiste altermondialiste, les activistes autrichiens sont bien organisés à travers des réseaux très actifs. La coalition Stop TAFTA a ainsi pu rapidement mobiliser des ONG environnementales, des syndicats, des agriculteurs, des employés, mais aussi des patrons de PME, des prêtres et les représentants de nombreuses communes dont Vienne. Une pétition envoyée par mail au gouvernement a rassemblé quelques 45 000 signatures. Des manifestations sont organisées régulièrement et surtout...
Depuis janvier 2014, on a fait certainement 200 débats dans toute l'Europe, même plus.
L'information, c'est la clé. Le mouvement a également gagné de l'ampleur grâce à la couverture médiatique du premier quotidien du pays, la très influente Kronen Zeitung. Alexandra Strickner constate une soif de renseignement et une envie de s'engager.
Ce que je vois, moi, quand on parle avec les gens, les gens sont très informés. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont lu au journal un petit peu qu'il y a un problème. C'est vraiment, ils participent au débat, ils veulent savoir, ils veulent comprendre mieux. Et après, ils s'engagent aussi à faire passer la parole, à informer d'autres. Donc c'est vraiment un mouvement très fort qui existe en Autriche.
Effectivement, les passants semblent ce jour-là plutôt familiers de la politique commerciale européenne. Comme Eva, sur le chemin du travail.
Oui, bien sûr que j'en ai entendu parler. Je suis contre, parce que les multinationales vont faire de l'argent avec ça et que nous ne pourrons pas décider nous-mêmes.
Un sentiment de méfiance diffus qui a bien été perçu par la chancellerie. Dès la mi-juin, le gouvernement autrichien a fait campagne en Europe pour que le CETA ne soit pas ratifié sans l'accord des différents parlements nationaux. Et la Commission européenne a cédé. Si Christian Kern, le chancelier social-démocrate, et Reinhold Mitterlehner, le vice-chancelier et ministre de l'économie conservateur, se sont mis d'accord pour discuter du traité au niveau national, c'est que les résistances sont profondes. Pour les aplanir, l'université privée américaine Webster organisait l'année dernière déjà à Vienne une table ronde intitulée « TAFTA, la recherche des faits ». La soirée, organisée sous l'égide de l'ambassade américaine, avait pour but de rationaliser le débat. Sur le podium, des experts qui détaillaient notamment les avantages de la levée des droits de douane pour l'Autriche, un pays exportateur et spécialisé dans des produits de niche. Johannes Polak était présent à cette réunion. Le directeur des sciences politiques à l'Institut viennois des hautes études explique aujourd'hui que le pays est traditionnellement méfiant envers le modèle économique libéral américain. Selon lui, les craintes sont concentrées sur le risque de l'affaiblissement de l'État social avec l'ouverture prévue du marché transatlantique.
Les Américains ont des charges salariales très basses. On ne peut pas leur faire concurrence. Nous, nous avons un système social très développé, enfin, pour le moment.
En plus de déstabiliser un modèle social coûteux, la libéralisation sauvage laisserait sur le bord de la route les perdants de la mondialisation, ceux qui auraient du mal à vendre leur travail sur un marché globalisé. Ce sont justement les lecteurs du journal Die Kronen Zeitung, le quotidien déjà évoqué par Alexandra Schrickner. Pour Johannes Polak, le journal joue surtout sur les peurs pour augmenter son tirage.
Le journal met en avant le poulet au chlore, le nivellement des standards, la disparition des normes environnementales. Il touche à tout ce qui compte pour les Autrichiens, en particulier les règles de sécurité alimentaire.
Les normes environnementales et l'État-providence. Les traités de libre-échange mettent-ils en danger des acquis qui tiennent particulièrement au cœur des Autrichiens ? Dans le cas du CETA, les députés nationaux pourront finalement donner leur avis. Des manifestations sont déjà prévues pour le 17 septembre à Vienne, Linz, Graz et Salzbourg, ainsi que dans toute l'Europe.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Allez, on oublie un instant cette actualité dramatique pour écouter de la pop légère avec Carnaval Youth.
Si certains groupes ont besoin de temps pour mûrir leurs chansons, leur style ou leur son, d'autres mettent dès que possible le pied dans la porte pour s'y engouffrer à toute vitesse. C'est le cas des Carnival Youth, tout jeune groupe letton formé à Riga en 2012 et qui a très vite passé les vitesses avec déjà au compteur un maxi, deux albums et quantité de tournées qui sont passées par certains des plus importants festivals européens comme Eurosonic, où Carnival Youth a remporté en janvier un European Border Breaker Awards. Et c'est aujourd'hui le moment de récolter les fruits de ce travail acharné et enthousiaste avec la sortie de Propeller, nouvel album de pop à guitare décomplexé dont je vous propose un extrait forcément estival, Surf.
On vous laisse sur Surf, un titre qui invite aux vacances, qui invite aussi à oublier le quotidien. À la réalisation, il y avait Jérémy Besset. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.